amis. Donc, d'où l'intérêt de cette réunion, le but de cette réunion, je ne vais pas du tout m'apprécier des intervenants parler directement, juste une petite précision de méthode, le but n'est pas de faire une conférence, mais bien un échange. Hein. Donc, on verra suivant quelle forme, vous direz comment vous souhaitez que ce soit. Le but, c'est bien d'avoir un échange de professionnels sur le sujet, avec l'aide de
pas de parler descendant, donc.
Voilà.
Préparez. Ça
ok. Je vous laisse la parole à Adélie.
Merci Christophe. Alors, j'avoue que comme Christophe et Patrick m'ont demandé de leur donner un coup de main pour préparer la conférence sur le lab, j'ai eu un petit peu peur. Mais le fait que ce soit un échange. C'est vraiment dit de pouvoir échanger avec vous sur nos questionnements, nos problématiques, surtout le cadre réglementaire, la pédagogie, la mise en œuvre, tout ça évolue, surtout quand on a donné 30 ans, donc il y a beaucoup de choses qu'on apprend en marchant. Et c'est dans ce sens-là aussi que le Dubois avait accepté de participer pour animer. Donc on va, par contre, je crois qu'on doit terminer à 18h. Vous avez votre trajet après.
Oui, alors la séance sera suivie de notre assemblée générale de l'association qui, je précise, hein, sera courte. On est sur on ne se noie pas dans l'administratif. Hein. Mais là, quelle est l'heure de fin de la location de la salle, Patrice?
23h.
En tout cas, nous, on est parti sur 18h.
Jusqu'à 23h, je ne vous arrête pas.
On va pas attendre.
Mais on vous propose de débattre en trois temps. Alors, avec Thomas et qui se présentera peut-être après, on va vous proposer en trois séquences. En gros, un petit récap. Avec l'aide de Loïc Guilbeau sur l'actualité actuelle, parce que vous savez qu'il y a encore une actualité parlementaire, sénatoriale et contentieuse, ou pré-contentieuse, qui anime les sujets. Une deuxième partie plus sur laquelle Thomas va animer sur les grandes questions qui remontent à la fois des praticiens où nous sommes, soit en bureau d'études, soit dans les collectivités que les uns les autres représentent. Et puis, troisième point, Loïc Guilbeau nous rappellera les outils sont actuellement à disposition, alors à la fois des outils en ligne, mais également des personnes qui sont derrière, en France, sachant que le Rig est à Nantes, pour la mise en œuvre d'un certain nombre de cartos, d'outils, de pédagogie, etc., au niveau du CRM. Donc, un mot juste sur l'actualité, parce que, on a tous des niveaux d'information très différents, pour certains d'entre vous, ça fait des évidences, mais je les rappelle quand même, le ZAN, est-ce que ce n'est pas vraiment une révolution, puisque depuis un certain nombre de textes, depuis 15 ans, la consommation d'espace a été re-questionnée, avec évidemment la grande loi SRU en 2000, puis l'engagement national pour l'environnement en 2010, puis la loi Allure, puis la loi NOTRe qui a réinventé quelque chose, mais dont on ne parlait pas trop, qui était le SRADEP, qui avait été lancé dans la loi NOTRe, et qui aujourd'hui va occuper. Une position importante. Et je pense qu'au-delà de la consommation d'espace qui est traduit dans les pluies, dans les SCOT, dans les projets urbains, on a cessé d'avoir au quotidien, je pense personnellement que c'est une révolution. On a besoin maintenant en fait, de SRADEP et on le voit dans les débats riches et animés dans nos régions. Il y a peut-être des Bretons parmi nous. Mais le SRADEP, qui venait d'être approuvé donc en 2021, a été a croisé la loi résilience, donc immédiatement approuvé. Alors qu'il venait d'être approuvé, il a été remis en révision. Il est en révision en concertation actuellement, avec un calendrier qui était au départ d'achèvement pour 2023, mais si je ne me trompe pas, qui a été repoussé à février 2024, qui a redonné, parce qu'il y avait déjà eu 6 mois de données au PDA, un petit délai important. Ce sera d'être au niveau région, idem en Bretagne, il est également en révision, même s'il avait essayé d'anticiper la révision, que le SRADEP breton est en révision. Donc ce sera d'être important, puisque c'est le SRADEP qui va j'allais dire fixer, mais ce n'est pas fixé, qui va essayer de déterminer les grandes règles du jeu entre les territoires à l'intérieur de la région et qui devront être repris dans les SCOT. Pareil, avec un calendrier qui était fixé en 2026, mais on va en reparler puisqu'il va sans doute bouger ce calendrier. Puis, ou en parallèle, dans les PLU en 2027. Tout ça, en dehors du fond, je pense que c'est quand même un peu une révolution d'avoir des ambitions de calendrier aussi courtes compte tenu de la vie de René. Sachant que la grande révolution, je crois, c'est quand même le caractère prescriptif de l'objectif 2050, avec le zéro artificialisation. Je suppose qu'on pourra l'envoyer après, mais il y a un certain nombre de décrets qui ont suivi la loi révision de 2021, dont qui ont été pris, d'autres avaient été projetés, n'ont pas été pris. Il y a entre autres le fameux décret qui définit l'artificialisation, mais à ma connaissance, mais peut-être qu'on va en débattre, il n'y a pas de décret qui est sorti sur la notion de consommation, puisque les deux sujets sont distincts. L'artificialisation net en 2050, mais c'est la consommation des 10 dernières années qui doit être prise en compte. Et puis surtout, donc tu montres avalanche de texte avec. Donc la notion du ZAN, d'autres notions qui sont moins percutantes mais qui sont importantes, c'est-à-dire sur les projets opérationnels, en plus des études d'énergie renouvelable qui se sont introduites progressivement dans les études d'impact du Code de l'environnement, se sont ajoutées les notions d'études de densité. Il faut montrer maintenant dans les projets, sachant que là aussi la méthodo se découvre en avançant, de comment un projet qui est conçu a pensé de nouvelles densités. Mais ce texte vient pour être rappelé dans l'étude d'impact. Et puis d'autres textes sur le suivi, l'évaluation à l'échelle des plus, des sols, et surtout des zones d'activité économique qui doivent être faites des inventaires au départ, puis des suivis tous les 3 ans de mémoire. Donc un certain nombre de méthodos et d'outils, on voit bien qu'ils sont en train de se lancer dans plein de territoires pour ces inventaires de zones d'activité. Voilà, puis tout le débat sur les localisations préférentielles des zones de renaturation, puisqu'on est sur l'artificialisation nette, donc comment on cible les espaces de renaturation dans les SCOT en particulier. Voilà, on pourra en rajouter. Avec quand même, mais je vais passer tout de suite le flambeau à Loïc. Le Sénat a sorti donc le 17 ou 18 mars un projet de loi qui réinterroge des éléments de calendrier qu'on voyait auparavant et un certain nombre d'autres volets. Donc là-dessus, où on en est, je vais passer la parole à Loïc. Et puis, vous savez que l'Association des maires de France a déposé un recours également sur ce texte dont je ne connais pas l'avancement. Sachant que d'autres décrets également sont toujours en attente. Voilà, donc on est sur des textes qui sont loin d'être stabilisés. Loïc, je vous laisse compléter.
Donc, je suis Loïc Guibaud, je suis architecte de formation de l'État, donc on appelle aussi urbaniste, comme vous. Je travaille au sein du CRMA, qui est un établissement public administratif, qui depuis tout récemment, 2022, à une gouvernance qui est partagée à égale part entre les collectivités et les États. Et on vient, donc c'est l'administration du mois de mars, 21, je crois, on vient d'arrêter les collectivités adhérentes du CRMA qui vont prendre part à la gouvernance du CRMA sur son organisation. Personnellement, donc moi je suis basé, le CRMA est un établissement national, je suis basé à Nantes et je suis responsable du projet territorial et de la zone territoriale. Et la zone d'intervention de prédilection, c'est plutôt les Pays de la Loire et la Bretagne, où on a des sujets comme les questions d'adaptation des territoires littoraux au changement climatique, ou la question du fond friche, ou des choses comme ça, qui sont des choses nationales, parce qu'on a été des initiateurs de cette réflexion-là, de ces démarches-là. Du coup, on intervient pour certains sujets à l'échelle nationale. dans mon équipe, on travaille sur les questions de foncier et d'immobilier. Il y a une part d'activité sur ce foncier, c'est l'immobilier. Je vais expliquer le détail du foncier après. Les stratégies territoriales de résilience ou de transition, on va dire, comme vous le souhaitez. Tout ce qui est la question du renouvellement des tissus urbains. Il y a une position de ma part, de mon équipe, qui est d'arrêter de travailler sur des projets urbains qui seraient en expansion urbaine, parce que je ne dis pas qu'il n'y en aura plus, je dis que notre énergie à nous, qui est limitée, doit être concentrée sur ces problèmes qui sont plus compliqués que les autres. Et que du coup, notre énergie, on doit la passer sur des projets plutôt en renouvellement et plus en expansion. Donc c'est un parti pris de notre part, qui est cohérent avec par exemple le ZAN, mais c'est en avance de phase pour le moment. Nous avons aussi développé une activité plutôt de prospective. Alors à chaque fois, c'est des questions de prospective et entre la recherche appliquée et puis l'opérationnalité que vous avez sur les questions d'aménagement et de risque, et en particulier les risques naturels, les risques d'inondation. Et on participe pas mal à la question des guides sur la construction en zone inondable ou constructible, ou les questions d'adaptation des territoires littoraux, et puis de façon transversale sur ces quatre questions qu'on a une activité. On a une compétence avec une sociologue sur les questions de construction et participation. Donc voilà un peu le cadre de mon intervention. Alors, je ne suis pas la parole descendante de l'État, donc il y a tout un tas de questions que vous avez posées auxquelles je ne peux pas répondre, parce que je ne suis pas dans le ministère, et je ne suis pas au jour le jour à tous les textes qui sont donnés. Donc ça, c'est un élément important, parce que je ne pourrais pas répondre à toutes les questions réglementaires que vous pouvez avoir. Ce n'est pas mon rôle et ce n'est pas non plus... En revanche, le CEREMA intervient donc ce sont sur la question de la donnée, sur la question d'outils, de services web et sur les questions de stratégie liées au foncier. Sur les questions de données, on traite pour le compte de la DGALN l'ensemble de la donnée nationale. Ce sont des collègues qui sont basés à Lille, qui travaillent sur ces sujets-là et à ce titre. Ont travaillé sur le portail national de l'artificialisation. Et donc les cartographies que vous connaissez de l'occupation, enfin de consommation d'espace, elles sont générées par eux. Mon équipe ne travaille pas particulièrement sur ce sujet-là. Les collègues de Lille travaillent sur ce sujet-là. Ensuite, nous avons développé au sein de mon équipe avec Bertrand Leroux et l'INRAE à Avignon depuis. Donc, presque 10 ans, un service web qui vient d'être mis en ligne et à disposition de l'ensemble des collectivités nationales, des ayants droit du fichier foncier, qui s'appelle Urban Cellule, qui permet de rassembler l'ensemble de la donnée foncière et qui identifie, alors dans la version nationale, qui identifie les gisements fonciers basiques, puisque ce sont des gisements fonciers pour les unités foncières nues. Donc on travaille à l'unité foncière, on ne travaille pas à la partie, on travaille à l'unité foncière. Ce sont pour les identifier des gisements fonciers nus. Donc c'est un premier niveau. En Loire-Atlantique et sur Nantes Métropole, ils ont une version plus avancée, qui est une version un peu territoire. On a une autre version qui est une version R&D, mais sur la version de la Loire-Atlantique qui a été acquise il y a plusieurs années déjà par l'établissement public foncier de la Loire-Atlantique et par Nantes Métropole. C'est une version un peu plus affinée sur laquelle ils ont des gisements fonciers qui sont plutôt sur des fonciers déjà bâtis avec du foncier résiduel. Et puis là, en ce moment, on travaille pas mal sur la question des filières de production de logement, puisque c'était d'abord essentiellement orienté sur la question du résidentiel. Et du coup, à partir des filières de production de logement, on essaie de reconstituer des parcours de valorisation de foncier. Et en fonction de ces parcours de valorisation de foncier, de caractériser ces parcours pour pouvoir identifier des potentiels de renouvellement urbain. Donc ces différents niveaux d'identification de gisements nous semblent participer à la question du ZAN. Donc ça c'est la version nationale d'Urban Cellule National qui est à disposition des collectivités. Vous n'êtes pas des ayants droit de fichier foncier. En revanche, quand vous intervenez pour une collectivité territoriale, vous pouvez solliciter un droit d'accès à cet outil, à ce service qui est en ligne et qui est dans un flux de données toujours régulièrement, le plus actualisé possible, vous pouvez solliciter un accès pour la collectivité concernée pour pouvoir faire des extractions et travailler sur ces données-là facilement, puisque ce n'est pas toujours évident. En tout cas, Je ne sais pas comment vous arrivez-vous à récupérer de façon simple l'ensemble de ces données, mais aujourd'hui un portail qui vous permet d'en récupérer de façon assez facile ces données, et de pouvoir faire des tri, de pouvoir faire des sélections de contraintes, et aussi sur les questions de marché. Alors ça, vous l'avez parlé sur le net, mais vous pouvez aussi, vous l'avez également sur le site, on pourra peut-être faire une petite démonstration après, mais peu importe. Donc ça, vous pouvez solliciter pour le temps de vos travaux des ouvertures de compte que la collectivité vous donne pour une durée de 2, 3, 4 mois, ça dépend de la durée de votre mission. Et à la fin de votre mission, le droit d'accès, c'est pas. Donc ça, c'est un élément important. Dans les autres services que le CNMA a développé, il y a un service qui s'appelle Urban Vitalis, qui est orienté plutôt sur la question des friches, puisque en parallèle du fait d'avoir initié le fonds friche, on a développé ce service qui permet d'appuyer les collectivités, en tout cas que les collectivités puissent solliciter le CRMA pour être appuyé pour la valorisation de friches. Et donc ça, c'est pareil, vous pouvez tout à fait si les collectivités ne le savent pas, vous pouvez tout à fait être l'intermédiaire de ce service-là. Il apporte un certain nombre d'informations, en tout cas de repères aux collectivités pour pouvoir valoriser des friches en leur rappelant dans quel cadre ça s'inscrit, quelles sont les obligations en termes de pollution, tous ces éléments-là. Et ce sont aussi, bien sûr, des éléments que vous pouvez vous utiliser dans vos travaux derrière. Donc ça, c'est pour la valorisation des friches. En marge, je redonne juste le... Vous connaissez probablement le fonds friche qui a été mis en œuvre dans le cadre du plan de relance. Partant du constat, en fait, notre constat que pour valoriser une friche, c'est plus compliqué que d'aller construire dans un champ de patates. Et que la différence de coût entre du fait de la dépollution, de la déconstruction, du traitement des hébers, tout un tas de choses, on pouvait peut-être le prendre en compte dans le cadre du fonds friche. Et aujourd'hui, on en est. Alors, le fonds friche, il y a eu trois vagues de fonds friche, pour un total de 750 millions d'euros, je crois, aujourd'hui. À l'échelle nationale. Aujourd'hui, il est intégré au fonds vert et il y a une enveloppe nationale de 300 millions d'euros par an dédiée à la prise en charge de ces coûts supérieurs sur la question des friches par rapport à des extensions ou des réalisations qu'on va faire un bien. Je précise tout ça parce que ça participe pour moi de la réflexion sur le ZAN, parce que au-delà du zéro artificialisation nette, alors je sais que pour vous, la problématique, c'est plutôt une problématique de planification et de comptage de qu'est-ce qui est pris en compte et qu'est-ce qui n'est pas pris en compte et comment est-ce qu'on va pouvoir se prendre. Le positionnement en tout cas que moi j'ai souhaité prendre, c'était effectivement pas dans la question du comptage de ce qui a été consommé, ce sont des collègues de Lille et ce sont des discussions sans fin dont je ne suis pas capable de retranscrire l'actualité précise des échanges. Est-ce que la maison sur un terrain de 4000 m², est-ce qu'on compte la parcelle de 4000 m² ou est-ce qu'on compte l'entrée de la maison, tout ça vaut d'accès? Ça bouge tous les jours. Je ne suis pas capable de répondre à cette question. Et sur la question de la territorialisation du ZAN dans le cadre des SRABET, c'est une question éminemment politique. Laurent Wauquiez a annoncé que pour la région Auvergne-Rhône-Alpes la semaine dernière, ce ne serait pas une division par deux, ce serait une division par 2,2. Et que il garde, les 0,2, il les gardait pour lui, pour ses projets régionaux. Moi, je n'ai pas de rien à faire. Donc c'est quelque chose aussi sur lequel nous n'intervenons pas. Donc le choix du CRMA, en tout cas pour le CRMA à l'Ouest, c'était plutôt d'essayer d'outiller les collectivités pour mettre en œuvre l'esprit du ZAN, c'est-à-dire la sobriété foncière, et d'essayer de rechercher à ce qu'on consomme moins d'espace naturel et agricole. Et en ce sens, de pouvoir à la fois mettre à disposition la donnée foncière facilement, ça nous paraît être un élément important, de pouvoir identifier des gisements fonciers également, en renouvellement urbain, ou en tout cas en optimisation des tâches foncières existantes, de travailler sur la question des friches également, je l'ai dit, le portail d'Urban Vitalis, la question du fonds friche, on a d'autres projets, mais qui on espère qu'avec le fonds vert, on va pouvoir les financer, mais aujourd'hui, ils sont encore un peu en expectative auprès des préfets de région, de la région de Bretagne et de la région de Bretagne, pour essayer de faire matcher à la fois des projets de territoire avec des friches et des porteurs de projets. Donc ça, c'est un élément pour nous qui est important. Je ne sais pas si je suis clair dans mon propos, mais c'est qu'en gros, aujourd'hui, vous avez... en tout cas, moi, aujourd'hui, toutes les semaines, je suis démarché par des opérateurs immobiliers qui me disent on veut travailler avec le CMA parce qu'on est intéressé pour travailler sur les friches, etc. Il n'y a pas de hasard, je veux dire, tout le monde voit bien que le foncier nu se réduisant, il va falloir s'intéresser plus aux friches et que, comme le CRA est plutôt investi sur cette question-là, eh bien, on vient nous chercher pour pouvoir travailler sur la question des friches. Nous refusons de travailler directement avec les opérateurs si on ne le fait pas pour le compte des territoires. Parce qu'on est d'abord au service des politiques publiques, donc on travaille d'abord à ce niveau-là. Et donc là, l'idée, ce serait de pouvoir travailler avec les territoires sur des friches et de pouvoir en face mettre des opérateurs et rechercher des programmes un petit peu ambitieux pour la valorisation de ces friches, à la fois en activité, aujourd'hui on parle beaucoup de l'activité économique, et peut-être un petit peu moins du résidentiel. Voilà, donc ces friches-là. Et puis effectivement, d'un autre côté, il y a donc l'optimisation des réalisations, des projets d'aménagement, des constructions. Il y a aussi la question de la renaturation. Et donc effectivement, dans cette identification de gisements, il y a tout un travail qui est aussi conduit par le CEREMA pour essayer de travailler sur où est-ce que, de façon la plus opportune, il serait intéressant de pouvoir désimpervialiser, renaturer, et du coup avoir des sites nets et donc de compensation. Et donc, par exemple, aujourd'hui, on a dans le cadre de conseils qu'on peut donner aux collectivités, on invite certaines collectivités à ne pas valoriser forcément des friches, parce qu'elles ne sont pas forcément dans le projet de territoire forcément au bon endroit, ou en tout cas bien positionnées par rapport au projet de territoire. Et plutôt à considérer que ces friches-là peuvent être renaturées pour pouvoir, à l'inverse, venir renforcer un pôle plus pertinent par rapport au projet de territoire. Donc ça, c'est une réflexion qui est un élément important du net. Voilà un petit peu l'introduction que je peux faire avant les échanges que nous pouvons avoir.
Thomas,
on va essayer d'éviter de rester sur les décrets et les textes.
Oui, voilà.
L'objectif, effectivement, c'est de vraiment partager sur la façon dont on perçoit ces objectifs. Je crois que ça nous pose tous des questions à nos élus, aux habitants de territoire, à nos techniciens. Donc, je me présente d'abord rapidement, Thomas Favreau. Moi, je travaille actuellement, je suis responsable de l'aménagement sur la communauté de communes du pays savoyen, Savoie-sur-Sarthe. Donc, j'ai de 12 000 habitants, communauté de communes de 30 000 habitants. Auparavant, j'avais travaillé aussi dans le privé, dans un bureau d'études, avec une activité assez axée sur la planification. Donc, j'avais fait 18 ans. L'idée c'est d'avoir un écho un peu, alors moi c'est à travers ma pratique, les échanges que je peux avoir sur les territoires avec les différents acteurs, il y a un certain nombre de questions, de réactions qui remontent. Donc après, bon, on n'aura peut-être pas les mêmes réactions sur le sujet, mais bon, l'idée c'est de pouvoir lancer le débat là-dessus. Moi, ce que je perçois quand même globalement, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que, en tout cas au niveau politique, il y a quand même une compréhension de la nécessité du changement aujourd'hui, une certaine forme d'adhésion à l'objectif de fond, mais un vrai désarroi sur la façon de s'y prendre. La première question, pour moi, c'est comment on fait ? Comment on fait en gros, pour passer par là de ce modèle-là, alors qui n'est pas forcément le modèle de développement qui est encore utilisé par la plupart des communes, mais quand même beaucoup de territoires sont engagés, ont l'habitude de ce type de développement par opérations successives. Voilà, on remplit les classes de l'école, on cherche les primo excellents, et puis quand les enfants partent dans des nouvelles opérations, et puis ça devient quelque chose qui s'auto-entretient et un cycle qu'on a du mal à rompre, une transition qu'on a du mal à engager. En plus, ça mérite d'être simple en termes d'acquisition foncière, de commercialisation, d'aménagement. C'est rapide, c'est massifié. Et on se rend compte qu'on est engagé vers un autre mode d'aménagement. On sait tous qu'il faut faire différemment. On voit tous l'échéance, on est déjà dedans. Mais sauf que les outils ne sont pas les mêmes. Là, je me suis amusé à faire une petite liste, mais elle pourrait être beaucoup plus longue. On n'actionne pas les mêmes leviers, effectivement. On n'agit pas simplement sur la production de logements neufs, on est sur de la réhabilitation, démolition, reconstruction du renouvellement urbain, et puis de la densification et recomposition du tissu urbain. Il y a plein de petites ficelles comme ça à tirer, et sur chaque levier, il y a des outils qui sont différents. Là-dedans, là, il y a du fiscal, il y a de l'opérationnel, il y a de l'accompagnement de sensibilisation, il y a du réglementaire. Enfin, on voit bien qu'il y a plein d'outils en fait, qui existent, sauf que le maniement de ces outils et leur combinaison entre eux pose un certain nombre de questionnements et d'inquiétudes. Enfin, moi, c'est vraiment les remontées que j'ai de la part des élus, c'est que effectivement, faut faire dans la campagne. Quand on mène une opa en nouvellement urbain, par exemple, faut faire du porte-à-porte, aller chercher les propriétaires, les amener un par un, les sensibiliser un par un, leur expliquer les aides. Et c'est la bonne démarche, mais elle prend du temps, elle est complexe, elle mobilise beaucoup d'ingénierie. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui pose question, c'est comment on transforme notre façon de se faire et on se dote des moyens en ingénierie, de la connaissance des dispositifs. Et puis comment, parce que ce que vous avez dit un petit peu, c'est comment on commence par le début, c'est la connaissance de ce qui existe, des gisements, le foncier à qui il appartient, quelles sont les potentialités pour la sauver le territoire. Est-ce que on est plutôt sur un levier renouvellement urbain sur un territoire, sur une recomposition foncière sur un autre territoire? Les combinaisons seront forcément différentes, les acteurs seront différents, voilà, les sources de financement aussi sont différentes. Donc, voilà, pour moi, la première question que je perçois comme ça, c'est la question de comment on fait pour changer de méthode de travail.
Peut-être qu'on peut faire un tour de table, un tour de salle, parce qu'on va parler de développement économique, on va parler de qualification de l'artificialisation, enfin, d'autres questions.
Oui.
Là, on travaille à des échelles différentes les uns les autres, soit dans l'opérationnel, soit plus dans la planification, SWOT, voire SRADET, je ne sais pas. On constate un espèce d'empressement à sortir un certain nombre de projets, une espèce de bousculade sur les projets opérationnels. Par rapport à la question que tu posais, autant sur un SCOT, la question de l'aménagement du territoire et le télescopage avec le SRADET, l'identification des gisements, tout ça, des cartographies, plein de sujets. Autant dans l'opérationnel, l'empressement, il est plutôt resté sur ce modèle-là. Parfois, c'est pas toujours évident de mettre les deux en perspective. Sauf tout un tas de travaux, entre autres avec les EPF, qui sont quand même engagés beaucoup sur des friches depuis de nombreuses années, même de manière très opérationnelle. Mais peut-être qu'on peut faire un premier partage d'expérience parce que on a tous à apprendre les uns des autres des difficultés qu'on rencontre, des solutions qu'on a trouvées.
Vous partagez ce ressenti ou c'est... Il y a d'autres situations peut-être que vous vivez aussi dans la pratique.
Alors, je vais peut-être aller sur SCOT PLU parce que nous on travaille à ces deux échelles-là. Et c'est vrai que ça résume assez bien la situation. La première, c'est la grosse incertitude de quoi on parle, comment est-ce qu'on y a. En gros, on parle de chiffres. Il y a la donnée, on l'a dit, il y a les objectifs qui seront portés par le SRADET. Il y a une chose qui est importante aussi, c'est la,